Le journal des auditeurs avec Stéphanie Hartmann sur Africa numéro 1. Africa.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans votre émission, le journal des auditeurs. L'émission, vous avez la parole bien sûr, aujourd'hui c'est la libre antenne du journal des auditeurs. Comme chaque vendredi, venez vous exprimer sur les sujets de votre choix, c'est vous qui faites le sommaire. Nous parlerons notamment de la crise humanitaire qui menace la frontière entre l'Angola et la RDC. Nous reviendrons sur la condamnation à 20 ans de prison de Sébastien Adjavon. C'est tôt bénin, mais nous pourrons également parler de la qualification surprise de Madagascar pour la CAN 2019. Qu'en avez-vous pensé? Venez nous faire part de vos avis, de vos commentaires. Pour cela, composez dès maintenant le 01 55 07 58 00 depuis la France et depuis partout ailleurs dans le monde. Composez le 00 33 1 55 07 58 00 pour intervenir. Avant de vous écouter en direct, on se tourne vers le répondeur d'Africa numéro 1 pour écouter quelques-uns des messages que vous nous avez laissés.
Le JDA, c'est sur Africa numéro 1.
Oui, allô, bonjour, Madame Ekman. Je voulais parler cette fois-ci de l'éliminatoire du Coupe d'Afrique Cameroun 2019. Il y a du match retour qui a été déroulé pour 4e journée. Et Mali qui a fait le déplacement et pour Bujumbura contre Burundi. Je voulais vous dire, chers frères maliens, on a du ministre de M. Jean-Claude Sidibé qui a la bonne qualité, qui a de bonnes qualités, a compris l'entraîneur M. Mohamed Makassouba. Mais ce que je n'ai pas compris, le gardien qui n'est pas mérite d'être la première sur la liste qui s'appelle Diguira, qui a fait vraiment un mauvais match. Moi, j'ai demandé M. Mohamed Makassouba, qui est l'entraîneur qui est beaucoup connu en Afrique, qui doit remplacer Diguira. Donc, il faut changer les gardiens. On a des jeunes, on a des effectifs. Merci, Gilda.
Bonjour, cher animateur. Bonjour, la sœur Hartmann. Bonjour. Donc, je vous appelle. Moi, j'avais déjà laissé le message qui n'est jamais passé. Donc là, je relance encore mon message. Je voudrais parler de l'équipe nationale du Congo, Brazzaville, qu'on appelle les Diables Rouges. Le nom Diables Rouges, les Congolais de Brazzaville n'en veulent pas. C'est un nom politique. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, quand le Congo-Brazzaville avait déjà gagné la CAN au Cameroun des années 70, donc c'était le moment du règne du socialisme scientifique, tout ça, du communisme, ainsi de suite, où le livre de Mao, qui régnait en maître partout, le livre rouge de Mao, tout était rouge à Brazzaville. Les collèges, les lycées, les carrefours, tout était rouge. Donc quand on avait gagné la CAN, dans l'euphorie, on avait donné ce nom de Diable Rouge. Mais ce nom ne nous convient pas. Même si la Belgique, l'équipe nationale de la Belgique, on l'appelle Diable Rouge, c'est dans leur identité depuis de longues dates. L'étoile rouge de Belgrade, c'est dans leur identité de longue date. Mais le nom Diable Rouge, on n'en veut pas. Toutes les équipes d'Afrique qui jouent à la CAN ont leur symbole, le nom symbolique africain. Donc nous, il faut enlever ce nom de Diable Rouge qui fut donné par les camarades membres. À l'époque, les camarades membres, c'était des patrons. Tout le monde avait peur d'eux, ce sont eux qui régnaient qui ont fait donner le nom de Diable Rouge. Au revoir, merci.
Bonjour, Julia. Bonjour, Madame Eugénie. Je voulais intervenir. Cet après-midi, il y a eu le débat sur la Côte d'Ivoire. Sincèrement, je suis tellement dépassé sur le comportement des Ivoiriens. Je ne comprends pas. Ils ont invité un monsieur à lui demander. Il a le droit d'accepter l'invitation pour venir s'expliquer. Comment ça se fait des gens, un monsieur, je ne sais pas si, quand j'entends sa voix, je sais qu'il est vieux, je ne sais pas s'il est en Europe ici, je ne sais pas pourquoi nous les Ivoiriens, on est violents comme ça. Et tu appelles le monsieur, tu dis, ouais, c'est un gros menteur, voilà pourquoi on l'invite sur le plateau. Monsieur, franchement, zéro. Non, c'est incroyable. Ils sont prêts toujours à insulter les gens.
Oui, bonjour mes chers frères auditeurs. Je vais vous dire une chose. Vous savez, Emmanuel Macron, il utilise les outils de l'État pour combattre ses adversaires politiques de la même manière que nos présidents africains font aux adversaires. Voilà pourquoi il s'est allié avec Kagame, le président rwandais dictateur qui dépouille la richesse du Congo par le canal de Kabila. Mes chers frères et sœurs africains, Emmanuel Macron est un danger pour l'Afrique. Dans les urnes prochainement, nous devons le disqualifier largement. Merci, c'est Henri.
Bonjour mes chers frères guinéens. Je voulais m'adresser aux positions guinéennes, surtout M. Sédou Dalein Diallo. Monsieur, comme on dit en pull, Achou, M. Sédou Dalein Diallo. Vous savez, vous êtes en train de tuer les enfants des autres tous les jours avec votre bêtise. Donc moi, je vous demande d'arrêter votre connerie, s'il vous plaît. Vous n'êtes pas seul. Vous n'êtes pas seul comme un pull. Vous n'êtes pas seul. Je dis pardon aux autres pulls, mais vous, vous n'êtes pas un pull digne. Vous n'êtes pas un Guinéen digne. Vous n'êtes pas le seul opposant en Afrique. Merci. Bonne journée.
Bonjour, amis des IDEA. Bonjour, Tefani. C'est M. Diaby à l'appareil. Moi, je vais parler aujourd'hui les justes corrompus de Bamako. Vous croyez qu'en faire gagner président de la République, en disant des mensonges, de faire élire président de la République, de demander, après, de demander vraiment d'argent, ça peut marcher. C'est fini, les chantages, c'est fini. Vous savez, aujourd'hui, le président de la République, les derniers voyages qu'il a fait en États-Unis, vous avez vu ce que les Maliens ont fait, vous avez vu ce qu'on a fait à la France, c'est fini, on ne veut plus laisser ce pays-là débafouiller par qui que ce soit. La menace ne sert à rien à personne. Vous ne faites pas personne. Si vous avez menacé des gens, allez menacer ceux qui sont en train de tuer nos sœurs et nos frères à Kidal. Les menaces ne servent à rien. Ce président-là, il ne fera, aucune personne ne fera bafouiller ce pays-là. Le Mali a décidé, votre combat est en train de gagner. Les juges corrompus, vous n'aurez pas d'argent. Avant-hier, vous avez fait une réunion à Koulouba, ça n'a rien servi. Hier soir, vous avez fait une réunion à Koulouba, ça n'a rien servi. Il n'y aura pas d'argent. Le président-là même, il n'aura pas d'argent pour lui, sauf les juges. Si vous allez travailler, vous allez travailler. Si vous n'allez pas travailler, viens en grève, les juges corrompus. Vous avez fait perdre Soumaïla à cause de l'argent, vous n'aurez pas cet argent-là. Merci, ami des Jidia, c'est M. Diaby.
Bonjour, je m'appelle Gabriel Massoudi Binomari, secrétaire exécutif fédéral PPR de France. Ma réaction concerne l'expulsion des Congolais en Angola. Ça fait très mal que les Angolais agissent de cette manière. S'il y a un pays qui a gardé les Angolais chez lui, c'est la République démocratique du Congo avant leur indépendance. Même après leur indépendance, ils sont toujours chez nous. Et il y a même certains Angolais qui s'impliquent dans les affaires du pays du Congo. Bon, vraiment c'est triste pour voir les Angolais qui tuent les Congolais, qui vilipendent les Congolais. Et pourtant, il y a des années et des années que les Angolais vivent chez nous, en République démocratique du Congo, mais c'est vraiment déplorable. Mais je suis vraiment navré, désolé et fâché contre cette maltraitance qu'un Congolais subit en Angola. Gabriel Massoudi, Binomari, secrétaire exécutif PPR de France, j'ai dit et je vous remercie. Merci.
Prenez la parole dans le JDA sur Africa numéro 1.
Africa.
Merci à tous pour vos messages. Vous pouvez désormais intervenir en direct dans le journal des auditeurs en nous appelant au 01 55 07 58 00. Venez vous exprimer sur l'actualité de votre choix. C'est vous qui faites le sommaire. Dans un instant, on parlera avec Philippe de la condamnation de Sébastien Adjavon à 20 ans de prison par une cour d'exception. Avant cela, Diez, vous allez revenir sur les élections locales en Côte d'Ivoire. Diez, bonjour.
Bonjour, Madame Stéphanie.
Bonjour, Monsieur Diaz. Pour vous, hein, vous étiez oui. plutôt sceptique. Hein. Pour vous, vous avez dit qu'il n'y a pas eu d'élection, c'est plutôt un partage de postes.
Voilà.
C'est-à-dire?
C'est-à-dire, ce que j'ai remarqué, moi, hein, moi personnellement, il n'y a pas eu de débat dans cette élection. Si vous avez remarqué, le PDCI ne conteste pas la manière que eux-mêmes ont géré le pouvoir depuis 7 ans. Mais ils demandent, ils réclament que eux, que Alassane et ses gars leur passent la main. Bon, si on va, si je vais un peu plus loin, si vous avez regardé l'élection à Bogar, à Bogar, il y a eu Tefou, et puis il y a eu un ministre de la République. J'aurais aimé qu'il y ait un débat contradictoire.
Qui a été déclaré vainqueur.
Oui, oui, voilà, justement. J'aurais aimé qu'il y ait un débat contradictoire. Qu'est-ce que Tefou reproche au ministre? Qu'est-ce que le ministre propose au
un débat, vous dites quoi? Un débat télévisé, c'est ça?
Débat télévisé publiquement, que chacun...
Ah, vous dites bien, Diaz, que dans des élections locales, c'est difficile de retransmettre à la télévision l'ensemble des débats des candidats, puisque ils sont nombreux.
D'accord. Ah, ils sont nombreux. Mais ils ont éliminé combien de candidats à Bogar? Il y a eu que Tefou et Bakayoko. Bon. Qui veut dire que le bilan de ce pouvoir, c'est le même bilan que Tefou.
C'était le candidat soutenu hein, par... Si, on vous écoute, hein, Diaz, bien sûr. Hein.
Ah ouais. Oui.
C'est le candidat soutenu par Guillaume Soro. Donc, c'est-à-dire que pour vous, si je comprends bien, Diaz, entre Ahmed Bakayoko et Tefour Kone, il n'y avait pas de grande différence.
Il y a pas de... Ben, c'est les mêmes, ils ont géré les mêmes choses, mais seulement le fait qu'eux, ils veulent des postes et que Bakayoko ne veut pas leur donner, c'est ça qui fait qu'ils se sont retranchés derrière, soi-disant, mouvement qui soutient...
Est-ce que vous soulignez aussi, Diaz, ce qui est intéressant, est-ce que vous soulignez finalement, c'est ce que vous dites, c'est qu'on a été, on s'est battu, il y a eu du débat autour de, voilà, est-ce que c'est tel parti qui doit gagner, quel PDCI, RHDP, RDR, FPI, et vous dites finalement, on n'a pas parlé des vrais problèmes qui occupaient les municipalités ivoiriennes, il n'y a pas eu de débat sur des propositions, c'est ce que vous dites. Hein.
Justement, si vous regardez bien, Afi s'est présenté dans sa commune seule. Il y a eu combien de candidats? Il n'y a pas eu de candidats? Parce qu'ils ont laissé Afi pour ne pas qu'il soit battu afin qu'il représente le FPI. Vous comprenez ce que je veux dire?
C'est très clair.
Oui.
C'est très clair, Diaz, hein, c'est ce que vous disiez, hein, qu'il n'y a pas de, finalement, il y a pas, pour vous, il n'y a pas eu d'élection, c'est chacun s'est réparti plus ou moins. Les postes, je demande à Philippe, hein, s'il vous plaît, Philippe, de patienter encore un tout petit peu, puisqu'on va clore ce chapitre ivoirien avec Diomo Debeng. Diomo Debeng, bonjour.
Oui, bonjour Stéphanie, bonjour à tous les auditeurs d'Africa numéro 1.
Bonjour Diomo.
J'ai tenu aujourd'hui à ce qu'Africa numéro 1 m'appelle pour faire une précision. Et vous éclairer sur les élections qui se sont passées en Côte d'Ivoire, surtout dans la région du Ouarzazou. Alors, j'ai bien écouté l'intervention du député, l'honorable Mamadou Diomandé. Mais moi, vous m'entendez?
Oui, oui, on vous écoute.
Mais moi, je dois interpeller tous les Ouarzazoukas, comme on dit chez nous. Vous savez, nous avons eu, si vous voulez, nous avons eu 2 morts dans cette manifestation, en fait, dans ces élections. Moi, je crois que c'était pas ça. Et c'est dû à la faute de ces candidats-là qui n'acceptent pas la victoire. Je vous dis, je vous explique succinctement, Stéphanie. Il y a eu des candidats, dont un candidat du RHDP et 2 indépendants. Vous savez, il faut dire les choses telles qu'elles se sont présentées. Les perdants ont perdu. Les preuves sont là. Mais il y a des personnes qui leur ont fait croire qu'ils avaient forcément la victoire en faisant de faux procès-verbaux. Il faudrait que nous arrêtions ça. La région du Ouarzazou a beaucoup perdu. Nous n'avons rien gagné sous ce territoire de Ouattara. Pourtant, le président Ouattara nous avait tout donné, y compris le ministère de l'Intérieur, le ministère de la Défense. Il nous a donné aussi l'organisation du parti. Ils nous ont donné aussi l'organisation de l'élection.
Mais à
cause de cette discorde, à cause de cette discorde au niveau des cadres, Séguéla a perdu tout. La région du Ouarzazou a tout perdu. Aujourd'hui, nous sommes là en train de pleurer encore des morts pour des élections. Pensons à notre région au lieu de penser à des querelles intestines. Il faudrait que ces perdants-là arrêtent de... Parce qu'il y a une division partout dans tous les villages de la région du Ouro-Dougou. Il y a une grande division. Partout où tu pars, c'est pro-Diomandé, pro-ceci, pro-cela. Moi, je pense qu'il faut arrêter. Il faut penser au développement de ces gars-là. Nous sommes encore en train de pleurer. Il faudrait que ces mauvais perdants acceptent la défaite et que bras dans la main, on essaie de rehausser l'image du Ouro-Dougou, Stéphanie. Voilà.
C'est très clair, Diomo Demeng. Merci de votre contribution à ce débat. On clôt le chapitre élection en Côte d'Ivoire et on se dirige du côté du Bénin. Retrouver Philippe. Philippe, bonjour.
Bonjour.
Bonjour Philippe. Bienvenue dans le JDA.
Je ne connais pas M. Adjavon ni Talon. Mais je parle en tant que Béninois, ce qui se passe aujourd'hui dans ce pays.
Alors, si vous permettez, Philippe, on va juste faire un petit rappel des faits. L'opposant homme d'affaires, Sébastien Adjavon, qui était candidat à l'élection présidentielle, a été condamné à 20 ans d'emprisonnement, 5 millions de francs CFA d'amende pour une affaire de trafic de drogue. On se souvient que 18 kilos avaient été trouvés en 2016 dans un de des conteneurs lui appartenant. Il a été condamné par une cour... mise en place exceptionnellement, ça s'appelle la criette, alors que dans un premier temps, la justice béninoise l'avait pourtant relaxé. Voilà, Philippe. Ça vous inquiète, cette utilisation de la justice, hein?
Je suis au courant de tout ça. J'étais même à Cotonou le jour de son arrestation. Et puis moi, je voulais savoir, dans un pays pauvre comme le Bénin, qu'on n'a pas assez de milliardaires qui peuvent donner du boulot aux jeunes. Et ce monsieur, même s'il est un trafiquant de cocaïne, je ne sais pas, à cause de pouvoir, pour maintenir le pouvoir de Talon, a été aussi victime, qui a fait des années à l'exil. Et il a été gracieux par l'ancien président. Aujourd'hui, il est au pouvoir. Et ce monsieur, grâce à ce monsieur... Et t'as supporté, tu es devenu président. Même s'ils ont trouvé du cocaïne dans sa poche, on pouvait parler. Ce monsieur a été relâché depuis 2016. Et pour finir avec ce monsieur, on met une commission de jungle en place. Pour coûte pour le mettre en prison. Et ça va lui rapporter quoi? Et comment lui seul peut sauver le Bénin dans la pauvreté? Parce que ce monsieur donne du boulot, paraît-il qu'il donne du boulot à beaucoup de citoyens béninois. Ce monsieur, maintenant, il est en asile. Si un Béninois ne peut, un Béninois qui est capable, qui est empêché de donner du boulot à ses frères et sœurs, c'est quelqu'un d'autre à l'intérieur qui fera sa place. C'est pas possible. Je ne sais pas ce qui est venu dans la tête de M. Talon et ses frères ou bien ses amis qui sont à l'entourage. Franchement, ça va mal. Et il n'est même pas le seul. Le Bénin est devenu l'État police aujourd'hui. Tu peux même pas parler. J'étais à Cotonou, ça fait un mois. Tu peux pas tout être. C'est-à-dire, on dirait même temps de révolution, c'est pas comme ça. On n'a jamais vu. Ça, est-ce que c'est démocratie?
Le Bénin, qui était connu pour être le parangon de la démocratie en Afrique de l'Ouest.
Là, c'est la honte totale pour un pays berceau, un pays qui ne respecte même pas la justice. Ce qui veut dire que la justice n'existe plus. Si la justice acquitte quelqu'un et 2 ans après, on remet cette personne en prison et ses avocats n'ont pas le droit à un mot. C'est pas possible. C'est pas possible.
Philippe, on sent que vous êtes outré, en effet, par ce qui se passe au Bénin. Il faut savoir que la CRIET, donc, c'est la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme qui a été mise en place. Et c'est cette même Cour qui a condamné Sébastien Adjavon, qui ne s'est pas présenté, d'ailleurs, qui a refusé de se présenter devant la justice. Merci, Philippe. J'informe M. Camara qu'on ne va pas le prendre, qu'on clôt. Le chapitre Côte d'Ivoire. Il y a Serge qui patiente depuis un bout de temps. Rapidement, Serge, sur le Cameroun, parce que vous êtes déjà beaucoup intervenu. Bonjour, Serge.
Oui, bonjour, Stéphanie.
Alors, vous avez examiné, vous avez vu, le Conseil constitutionnel a retransmis l'ensemble, les discussions autour des recours de l'élection présidentielle. Tous les recours ont été examinés et rejetés. Qu'en pensez-vous?
Oui, effectivement, grande fut ma déception surtout. Et puis, quelque part aussi, j'étais très déçu par les opposants, en fait, ceux qui ont émis ces requêtes. Ce que j'ai pensé, Madame Stéphanie, c'est d'abord pour moi que l'opposition, en fait, les différents partis de l'opposition qui ont fait ces requêtes ont cherché ce qu'on appelle en français une vitrine. C'est-à-dire, lorsque vous regardez comment les débats ont été menés, surtout les explications qu'ils ont données, en fait, que ces partis ont données, j'étais très, très déçu parce que aujourd'hui, par rapport à M. Camteau, je peux pas comprendre un monsieur qui prétend avoir gagné une élection présidentielle et qui, à la dernière minute ou alors une fois devant le Conseil constitutionnel, vous parle de triche alors qu'il a gagné. Moi, j'attendais pour que ce monsieur nous apporte des preuves puisqu'il avait dit qu'il avait gagné.
Pourtant, de nombreux Camerounais ont plutôt souligné la remarquable démonstration de Maître Camteau, il me semble, devant le Conseil constitutionnel.
Non, il a rien. Non, pas du tout. Il a rien, mais ça, il a rien démontré, Madame Stéphanie, puisque vous avez des lois dans un pays. Et avant d'aller aux élections, il savait très bien, parce que, alors là, on a entendu tout et son contraire. C'est-à-dire, voilà quelqu'un qui arrive, qui vous dit, qui vous parle, par exemple, comment vous appelez, vous savez, les affiches, par rapport aux affiches. Voilà. Non, pas du tout les procès-verbaux. Je parle des affiches. C'est-à-dire que vous devez avoir, tant de mètres ou tant de centimètres. Bon, bref. Et lui, il s'est présenté aux élections. Pourquoi il n'en a pas parlé avant les élections? Et pourquoi en avoir parlé alors que vous avez gagné une élection? Pourquoi aller parler des affiches? Pourquoi aller parler des procès-verbaux? Et ce que j'ai pas compris avec Monsieur Camteau, parce que je vous dis, moi, j'étais pour Monsieur Camteau, mais ce que j'ai pas compris, c'est que ces représentants sur place, dans différents bureaux de vote, ont fait des remarques en disant que tout s'était bien passé. Et si après qu'ils ont ramené, et ça, je trouve que quelque part, pour quelqu'un qui veut diriger un pays aussi complexe que le Cameroun, je pense que
Monsieur Camteau n'était pas prêt. On va rester. Non, merci Serge, on a bien compris votre point de vue pour vous. Hein, Maurice Camteau, hein, candidat du MRC, n'était pas prêt. On va écouter Jules et Kanda ensuite. Kanda nous parlera du Congo. Jules, bonjour.
Oui, bonjour madame, bonjour aux auditeurs.
Bonjour Jules, vous avez entendu Serge qui dit Maurice Camteau n'était pas prêt. Qu'en pensez-vous?
Oui. Par rapport à mon compatriote, je ne suis pas tout à fait d'accord avec lui. Nous connaissons tous que le RDPC est une machine à fraude. Quand il dit que les représentants ont signé des MC, ont signé des procès-verbaux, que tout allait bien, mais il faut déjà remarquer qu'ils ont chassé pas mal de représentants de partis d'opposition dans les bureaux de vote. Bon, dans tous les cas, je ne vais pas insister dessus. Ce que je veux dire, je veux appeler les Camerounais au calme. Il faut que les Camerounais restent au calme. Il faut que les Camerounais revendiquent leur victoire pacifiquement. C'est ça le plus important pour moi. On a vu les PV que le Conseil constitutionnel est en train de valider et que ces PV n'étaient pas signés. Donc, ça veut dire que le résultat qui va sortir, on sait que M. Biya sera proclamé vainqueur, mais il faut que les Camerounais revendiquent la victoire, leur victoire pacifiquement. Donc, restons solidaires. Parce qu'il y a le danger qui nous attend. Le danger de l'intérieur, dont le parti au pouvoir va organiser le désordre pour pouvoir massacrer les Camerounais, sans compter le danger qui...
Ah, je suis désolé, Jules, ça a coupé, la ligne, ça arrive, hein, les réseaux. N'est pas toujours très bon. Voilà, Jules, appelez les Camerounais à l'apaisement. On ferme ce volet Cameroun. On va parler avec Kanda de ce qui se passe à la frontière entre l'Angola et RDC. Kanda, bonjour.
Oui, bonjour Madame Stéphanie Hartmann et bonjour à tous les auditeurs d'Africa numéro 1. Premièrement, je voulais condamner l'acte que le gouvernement angolais a fait de répatrier les autres Africains, nos frères africains du Congo Kinshasa. Mais le deuxième, j'aimerais bien dire, parce que il y a une monsieur de PPRD qui a laissé les messages pour condamner les actes que le gouvernement angolais est en train de faire. Bon, C'est bien de donner la leçon du droit de l'homme, étant qu'eux-mêmes, ils savent pourquoi les Congolais ils ont rentré en Angola. Ce n'est pas pour aller chercher le diamant, mais pour aller chercher la paix et pour aller chercher la sécurité aussi. Donc, le gouvernement angolais, actuellement, il est en train de rectifier un peu la tire parce qu'il a dit qu'il va légaliser tous ceux qui sont là comme des réfugiés. Mais ceux qui sont là comme, donc nous, on appelle les trafiquants de diamants et tout, donc ils seront répatriés. Donc, moi, j'ai condamné cette tasse-là et je voulais bien qu'on mette ça. C'est une situation politique. Nous, en tant que population africaine, on ne peut pas se mêler, commencer à se chamailler, de se menacer sur les réseaux sociaux parce que ce n'est pas bien. Donc, ce que le gouvernement africain fait, de nous entrer, d'essayer un peu de mettre tout le monde dans les problèmes politiques. Donc, nous, en tant que peuple, on devait rester un peu dehors. Donc, régler ça pacifiquement. Donc là, le gouvernement angolais, il a reconnu le ministère de l'Intérieur. Il a dit hier qu'il va essayer de légaliser ceux qui sont là comme des réfugiés. Donc moi, je condamne acte là de tout ce qui était en train de se passer. Donc ça reste entre des
politiques. Hier,
on peut pas se mêler. Ouais.
Hier, l'ambassadeur angolais en poste à Kinshasa a été reçu par le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères, Léonard Tshiekindoudou. Hein. Il s'est expliqué notamment sur les expulsions de son pays des Congolais, et selon les chiffres donnés par Henri Mova, vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur du Congo, près de 160 901 Congolais sont rentrés volontairement de l'Angola au cours de ces dernières semaines. Situation inquiétante, notamment pour les organisations internationales. Merci, Kanda, de votre appel sur ce sujet. On va écouter, il nous reste encore quelques minutes pour écouter Jean-Noël et peut-être Samafi. Jean-Noël voulait revenir notamment sur la condamnation de M. Adjavon au Bénin. S'il n'avait rien à se reprocher, il aurait pu rester et se défendre, nous dit Jean-Noël. Bonjour.
Bonjour, bonjour madame.
Bonjour monsieur.
Oui. Voilà, moi je suis un peu outré par la réaction des uns et des autres. Nous ne sommes pas dans les petits secrets donc de cette du tribunal. C'est vrai que si M. Adjavon n'avait rien à se reprocher, il ne serait pas parti depuis très longtemps avant ce tribunal. Et puis, ce qu'il faut comprendre, c'est que même s'il est milliardaire, c'est pas une raison pour qu'il puisse faire ce qu'il veut dans le pays. Je crois que aujourd'hui notre président ne peut pas se permettre de mettre en place ces espèces de choses dont les gens parlent, alors qu'il a besoin de l'international. Donc il sait très bien que ça va se savoir et qu'on lui demandera des comptes.
Effectivement, mais du coup, alors est-ce que vous pensez qu'il va faire une demande, puisqu'il y a un mandat d'arrêt international contre Sébastien Adjavon, qui apparemment serait plutôt en France, est-ce qu'une demande d'extradition va être faite? Pensez-vous que la France va extrader Sébastien Adjavon?
Ben, la France n'avait pas extradé le président de la République lui-même lorsqu'il était en exil. Alors, je ne sais pas si ça va se faire avec M. Adjavon. Donc, voilà, si la France le fait avec M. Adjavon, c'est qu'il y a...
M. Adjavon est en exil ou en fuite, M. Jean-Noël?
Il n'est pas en exil, il est en fuite. Voilà, il n'est pas en exil. Il est en fuite comme bon nombre de politiciens qui sont aujourd'hui en fuite.
Et comment expliquez-vous, Jean-Noël, que la justice béninoise l'a quand même blanchi, hein, relaxé hein, pour cette affaire de trafic de drogue? Comment expliquer que la criette se soit attachée à cette affaire?
Alors, moi, je crois que l'analyse que je fais de cette histoire, c'est que la première fois, quand on l'avait libéré, quand on l'avait blanchi, c'est parce que l'État ne voulait pas justement qu'il y ait de problèmes au niveau du pays. Et donc, on l'avait libéré pour éviter qu'il y ait des histoires. Aujourd'hui, le vent a soufflé là-dedans, et maintenant, bien sûr, il y a une autre justice spéciale qui est mise en place et qui peut refaire son travail. Voilà.
Moi, je pense affaire que à suivre, c'est donc.
Affaire à suivre.
Merci, Jean-Noël, voilà, de votre intervention. On a le temps d'écouter rapidement une petite minute. Samafi, Samafi, bonjour.
Bonjour, madame.
Bonjour, monsieur. Vous vouliez parler du PDCI RHDP en Côte d'Ivoire. Vous êtes déçu par le PDCI? Vous dites que ce n'est plus ce que c'était?
Oui, je suis déçu parce que le PDCI qui a été créé depuis lors du temps à l'Assemblée de Bamako au sujet du RDA, et c'était Oufuette qui avait fait ça à l'époque. Mais Oufuette avait mis Bédier comme un cabri mort, mais Bédier est devenu le serpent de Oufuette. Deux fois, à la fin des années, c'était la Côte d'Ivoire. Le PDCI n'est plus le PDCI qu'il était, c'est maintenant un club des amis. Parce que le fouettisme que Alassane prend aujourd'hui, au moment où Oufuette avait besoin de Bédier et autres, c'est le moment où tout le monde appelait Oufuette voleur dans la rue.
Et il y avait près de 1600 personnes qu'on devait licencier en Côte d'Ivoire. Il a fallu l'arrivée dans la salle pour stopper ça. Et il n'avait même pas besoin de la France. Il a fait tout son mandat de premier ministre sans prendre de crédit.
On arrive, ça m'a fait à la fin de cette émission. Voilà. Mais merci de votre participation. On a bien compris votre analyse sur les enjeux, sur le nouveau paysage politique en Côte d'Ivoire. Merci à tous de votre participation. On se donne rendez-vous lundi pour une nouvelle édition. Nous pourrons consacrer l'édition de lundi au Cameroun, après la présidentielle. Quels sont les défis qui attendent la classe politique camerounaise? Prenez soin de vous et bon week-end. À lundi.